mon film préféré, il s'agit de Forrest Gump, un film très classique du cinéma, réalisé par Robert Zemeckis avec, dans le premier rôle, Tom Hanks, un grand acteur également connu pour beaucoup de films. Et donc Forrest Gump, ça raconte l'histoire d'un jeune Américain qui nous raconte son histoire à travers les années. Donc son expérience de la guerre du Vietnam, mais aussi son idylle pour une jeune fille du nom de Jenny. Donc c'est une belle histoire d'amour autour de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Avec également de très belles musiques. Donc j'aime beaucoup ce film par rapport à l'histoire que ça raconte, le fait que ce soit une histoire d'amour assez dramatique, on va pas se le cacher. Et aussi parce qu'il y a Tom Hanks dans le rôle principal et Tom Hanks c'est vraiment un acteur très populaire.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha! Graffiti cinéma.
Bonjour à tous et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Après un mois de janvier consacré aux passions du cinéma, ces passions trépidantes qui nous motivent tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, à aller dans les salles ou tout simplement par fainéantise à rester sur notre canapé et regarder les services de VOD. En tout cas, cette passion du 7e art de l'audiovisuel, on tient évidemment à la continuer en 2023. Et après un mois de passion et de cinéma, comme je disais, qui nous a montré notamment des portraits de grands personnages assez improbables et puis également des revues d'art et d'essai et des présentations de parcours dans le domaine du cinéma, on revient avec des émissions inédites au mois de février. Parce que, évidemment, le cinéma, c'est avant tout un jeu. Et on est encore plein dans nos besaces de ces jouets qui parcourent nos petits cœurs et qui nous permettent de nous égayer jusqu'à des âges relativement avancés comme les nôtres. Au mois de février, nous parlons de jouets au cinéma dans Graffiti Cinéma et évidemment en très très bonne compagnie, hein, les amis, ça va de soi, puisqu'on retrouve un Big Four, clairement, pour cette première émission enregistrée en ligne, à commencer par Juliette. Bonsoir Juliette.
Bonsoir.
Et on accueille évidemment Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Tout le monde.
Salut à toi et Thomas également.
Donc on dit bonsoir le matin ou bonjour le soir, je
sais pas. C'est ça le problème de la langue française, d'avoir ces deux mots qui ne cessent de créer des disputes et des bagarres. En tout cas, on va rester dans un univers ludique et agréable pour parler de cette thématique-là, parce que c'est vrai qu'on très rapidement on s'est dit qu'il y avait une vraie belle filmographie autour évidemment du jeu au cinéma. Et à commencer par un tour de table assez important que je voudrais vous proposer après cet extrait, un extrait qui va nous rappeler des souvenirs très 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 anciens qu'on se transmet de génération en génération, puisqu'il s'agit de la bande-annonce de Pinocchio, le film qu'on retrouve donc sur Disney+, qui est une adaptation évidemment du classique de 1940.
C'est sur Netflix.
C'est sur Netflix, pardon.
J'ai l'immense honneur de vous présenter la 8e merveille del mondo. Le seul et l'unique Pinocchio.
Alors je baisse le son et on entend la bande-annonce qui continue derrière nos voix chatoyantes. Pinocchio, le classique de Disney de 1940, où je disais Disney Plus tout à l'heure, évidemment on le retrouve sur Netflix parce que c'est une adaptation donc menée par Guillermo del Toro, et on retrouve peut-être, je cherchais en fait un film matriciel pour la question vraiment d'ouverture dans cette émission. Est-ce que le jouet au cinéma est-il tout simplement un bel objet? Est-ce que c'est un objet, un bel objet filmique à vos yeux pour ce premier tour de table dans toutes nos filmographies, notre cinéphilie respective? Juliette par exemple, pour commencer, est-ce que t'as déjà été frappé, évidemment Pinocchio, là je vais chercher loin, hein, je vais remonter à l'enfance, un film, un classique qu'on se passe un peu de génération en génération, mais est-ce qu'il y a des souvenirs de jouets au cinéma qui tout de suite avec cette question là vous reviennent?
Ah bah oui, ben le premier Toy Story c'était tellement impressionnant à l'époque, parce que c'est vrai que Pinocchio c'était déjà impressionnant, mais c'est du dessin animé, là Toy Story on voyait plus On avait plus l'impression qu'il prenait vie vraiment finalement. Mais après, moi, je trouve, enfin, j'ai toujours trouvé que les films avec des jouets qui s'animaient, c'était des prétextes à raconter autre chose.
Ok, oui, c'est vrai que on va parler évidemment de beaucoup de défis hein, que pose la question des jouets au cinéma. Mais c'est vrai que c'est cet aspect-là, oui, de dire qu'on finalement on cherche toujours autre chose à faire et quelque chose d'assez important. Alors Nicolas, par exemple, sur la question du jouet au cinéma, est-ce que pareil, on a un souvenir qui revient en premier quand on pense jouer au cinéma? Évidemment, ça peut remonter à la petite enfance parce que le cinéma, il essaie toujours de réveiller un peu ses sentiments enfantins au fond de son petit cœur qui bat.
Mais c'est exactement ça, tout le monde a eu une enfance et tout le monde a eu au moins un jouet qui lui tenait à cœur. Moi je sais que par exemple quand au début des années 2000 est sorti Transformers au cinéma, ça m'a rappelé plein de souvenirs. L'idée de voir ces jouets que j'ai encore d'ailleurs transposés à l'écran grâce au prouesses techniques, parce que c'est impossible à réaliser autrement qu'en dessin animé dans les années 80. Mais le fait de se dire que ça y est, c'est transposé avec un scénario qui est ce qu'il est, mais en même temps qui est aussi fidèle à l'esprit des joueurs, hein, 14h. Mais oui, il y avait un petit côté un peu magique de se dire, bah tiens, on a enfin réussi à rendre réel ce qui n'était qu'un bout de plastique et de ferraille qui tenait dans la main, quoi.
Tout à fait, et c'est vrai qu'on voit à quel point le cinéma, c'est très rapidement, en tout cas les producteurs, ça peut surprendre du point de vue du spectateur de dire mais qu'est-ce que des jouets vont faire là-dedans, c'est absolument une quadrature du cercle, et dès les débuts du cinéma, on le voit, il y a beaucoup de stratégies comme Pinocchio qui va forcément passer par le cinéma d'animation pour y arriver. On rappelle que Pinocchio, c'est pas une création de Disney, hein, c'est une adaptation d'un conte italien très très ancien, hein, à l'image de Blanche-Neige qu'on attribue à Walt Disney alors que ce sont les frères Grimm. Walt Disney et l'écurie Disney après sa mort a vraiment aspiré énormément d'imaginaire dans partout où il le fallait, quand il le fallait, avec un sens de la stratégie qui s'est jamais démenti jusqu'à maintenant, puisque Disney est sur le point évidemment de racheter la France, hein, on le sait. Mais en tout cas, oui, c'est l'histoire d'une franchise qui a toujours été précurseur évidemment dans beaucoup de domaines, mais pour le jouet, il y a vraiment ce côté-là de dire ils ont réussi à trouver quelque chose, de trouver encore une fois, de démêler un terrain qui était assez important. Thomas, sur le jouet au cinéma, évidemment, pour finir le tour de table d'intro, on a parlé, bon, j'ai parlé de Pinocchio, on a parlé de Transformers, on a fait déjà un premier grand écart, mais est-ce qu'il y a une autre référence quand on parle de jouets qui te parle au fond de ton âme et de ton être finalement?
C'est beau, ça va loin là, mais je sais pas si c'est pas un peu à l'écart, mais quand on c'est pas spécialement quand j'étais petit, mais quand on regarde les films de Le Voyage de Simbad, ce genre de film dans les années 50, avec les animations des personnages en stop motion, moi ça m'avait toujours fait penser à ça. Et j'avais, quand tu ressors de ces films, moi j'avais envie de me dire ah, c'est possible, ça se trouve je peux le faire, d'animer ses propres jouets. Et je trouve ça formidable. Un peu même quand on regarde un autre grand écart, le Terminator par exemple.
Oui, bah oui, mais c'est vrai que c'est un fantasme.
Quand il anime le robot, vraiment quand il sur la fin des films évidemment, je me disais mais c'est génial, ça doit être possible, ça c'est j'ai envie que ce soit un jouet. Le Terminator, il te fait presque pas peur, t'as envie que ce soit dans ta chambre, ce soit un jouet quoi. Et c'est pas un film sur les jouets effectivement, mais je trouve que moi j'en ressortais en me disant que paradoxalement, tu avais envie d'avoir ça dans ta collection, finalement.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait le sens qu'on veut mettre là, c'est que cette notion de jouer au cinéma montre en tout cas une nature du cinéma, tout le temps essayer de réveiller ses sentiments très enfantins. Et ben, je vous propose un premier extrait justement pour parler de ces adaptations qui parfois ont surpris énormément de personnes, au bon sens du terme ou au mauvais, en tout cas on va voir. On va écouter en fait un extrait d'un film qui est pas forcément devenu culte, mais en tout cas qui est assez pertinent, je pense, dans cette sélection-là. Il s'agit en fait d'un extrait de Small Soldiers, tout ça. Simplement. Un film qui allait très très loin dans cette adaptation-là, évidemment avec des moyens techniques tout à fait différents de ceux des années 40, mais on fera évidemment beaucoup de yo-yo dans la chronologie cinématographique.
Commando, garde à vous! Commando d'élite, rassemblement!
Ah.
Faites l'appel, soldat.
Munch Meatog, sniper, mortel de près ou de loin, Major.
Sois le bienvenu à bord.
Nick Nitro, la démolition, c'est ma mission, Major.
J'ai servi avec ton père.
Alors ces soldats de Small Soldiers sont assez impressionnants. C'est vrai que quand il est sorti, il a eu vraiment un effet très surprenant, un vrai effet de buzz. Hein, et assez rapidement, c'était retombé derrière Small Soldiers. Alors que c'est quand même un film qui va très très loin avec l'inventivité technique d'animer les jeux. Et on va évidemment ici parler en parallèle de Toy Story, puisque Toy Story utilisait la vieille recette du cinéma qui permet évidemment de développer son imagination, qui était le cinéma d'animation. Alors évidemment, c'était quand même un cinéma d'animation avec beaucoup de moyens et beaucoup de talent, hein. Il ne s'agit pas de dire que c'est une facilité, mais quand même, là, le défi de Small Soldiers, c'était de faire un cinéma live, avec donc des premiers effets spéciaux, des CGI. Donc on voit directement à quel point les jouets ont représenté un des nombreux défis de l'histoire du cinéma, dans l'idée d'animer dans le sens où donner de la vie à ces personnages-là. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs donc, du coup, de ce Small Soldiers qui du coup, a été un vrai effet de mode, en fait, clairement, qui a vraiment marché.
Ah bah c'était le troisième Gremlins qu'on n'a jamais eu, en fait.
Oui.
Hein, Dante. Et alors moi, j'ai plein de souvenirs. Déjà, la bande-son très guerrière avec des chansons comme Another One Bites the Dust, Love is a Battlefield, War, enfin, voilà. Et puis, il y a le côté qu'on retrouve de façon très, très basique dans les jouets, le bien et le mal, en fait. Il y a les gentils, il y a les méchants. Même si dans le film, sans faire de divulgachage, il y a un petit, petit twist. Mais voilà, on se retrouve avec les deux gammes de jouets comme on avait les Autobots, comme on avait G.I. Joe et Cobra. Et ça montre bien de façon un peu cynique aussi le côté mercantile de l'affaire. C'est-à-dire que si tu veux vraiment jouer, il te faut un de chaque camp pour pouvoir faire tes propres affrontements, tes propres combats. Donc ça, on retrouve dans le film. Et puis oui, le doublage, l'animation, les effets spéciaux, le fait qu'ils soient à l'échelle aussi des jouets. En fait, c'est des jouets animés, c'est pas qu'on parle des Transformers, là c'est Tyrell parce que c'est des vrais véhicules, mais là on se retrouve avec l'échelle, donc tout ce petit côté un peu décalage dans les dimensions. Enfin, c'est un très bon souvenir, ce film.
Donc on a Winslow Corners, une petite ville de l'Ohio. Faut toujours trouver des territoires assez reculés dans ces films-là, c'est rigolo, hein, comme le Maine ou l'Ohio. Alan Abernathy, à 15 ans, il remplace son père en voyage d'affaires au magasin de jouets, donc pour attirer l'attention de la jolie Christy Fimple dont il est amoureux, Alan prend sur lui de renouveler le stock et d'acheter deux collections de figurines, comme disait Nicolas, un commando d'élite et des monstres pataux, les Gorgonites. Il ignore que ces jouets ont été programmés pour s'entretuer. Donc évidemment, on est en 98 et c'est un des films qui profite de la légende de Joe Dante, hein, qui est devenu vraiment un réalisateur qui n'a pas toujours eu énormément de succès, mais en tout cas qui a été un des plus influents dans la pop culture depuis plus de 30 ans. 87 millions de dollars au box-office pour un budget de 40. On voit quand même malgré tout qu'il y avait peut-être dans ces chiffres-là quelque chose qui fait que Small Soldiers n'est pas atteint le statut de film culte comme l'ont été évidemment les Gremlins, hein, et qu'on peut évidemment totalement intégrer dans cette logique de jouets également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Juliette et Thomas, également de ça, de cette suite logique de Joe Dante qui a été un peu obsédé par cette idée de jouets également, lui.
Moi, je trouve ça dommage que ce film il n'ait pas rencontré un succès, parce que même, je le trouve toujours très actuel, je trouve qu'il vieillit bien. Et c'est un plaisir que de le partager avec nos enfants encore aujourd'hui. Et il les touche aussi, parce que tous les films n'arrivent pas à le faire. Hein. Les films de notre jeunesse, parfois, ils le regardent avec un regard un peu « c'est quoi ton truc de vieux ?» Mais celui-là, il traverse bien les âges. Et je trouve qu'il y a des beaux messages dedans. Je trouve que c'est bien fait. Moi, c'est un film que je trouve vraiment attachant et vraiment très réussi. Je suis très étonnée. Il n'est pas plus marché que ça, en fait.
Il a été remboursé, c'est pas un flop au sens du terme, mais c'est vrai qu'il y a l'aura
de l'OND. C'est pas un pic de Dante, quoi.
Exactement. Un pic de Dante, c'est ça que j'ai entendu, un pic de Dante. on parle vraiment du pic de Dante dans ces choses aussi. Merde, je suis pas bien. Et on va être obligé de le garder au montage en plus. Le pic de Dante, quoi. Le film des jours fériés.
Ça y est, c'est la nouvelle année, Juliette, c'est parti, quoi.
Ce pic de Dante, c'est un film où on voit littéralement Pierce Brosnan s'ennuyer à l'écran, quoi. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est plutôt pompier a envie que le volcan explose dans ce film.
Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, on s'aperçoit que la lave est assez lente.
Enfin bon, mais c'est vrai que dans la notion de jeu plus large sur laquelle on pourra revenir, le pic de Nantes est très rigolo aussi, parce qu'on est vraiment dans le destruction porn à l'américaine. Alors pour revenir donc du coup sur Joe Dante et Small Soldiers, avant d'évoquer le cas Toy Story qui va être vraiment ici illustrateur, Thomas, c'est vrai qu'on t'avait un peu coupé la chic avec nos histoires de volcans.
Non mais quand Juliette dit qu'il n'y a pas eu de succès, effectivement il n'y a pas eu le succès escompté. Ça tient aussi, je pense, au fait qu'on ne sait pas trop comment placer le film, quoi. Est-ce que c'est vraiment un film pour enfants ? Dans quel cas, on commence à te le vendre comme ça sur des affiches, sur le marketing. Et là, t'emmènes ton enfant de 5-6 ans et qui voit des jouets détruits, brûlés ou des têtes coupées de jouets, tu te dis « Ah !» ben voilà. Ou soit tu le vends comme un film d'adulte et là, tu te coupes toute la partie des enfants qui sont les prescripteurs.
Dans Toy Story, tu as aussi des jouets mutilés.
Oui, mais c'est animé, donc c'est moins crédible, moins sérieux. Tu fais le même film, Chucky, en animé, t'as pas peur pareil.
Oui.
Voilà, et parce que là, tu peux vraiment t'imaginer que la porte fermée, tes jouets bougent là. Réellement, quoi. Finalement. Et puis, il me semble, pour le dire, ça fait un moment que je n'ai pas vu, il y a une histoire de puce.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est
informatique dans les jouets. Oui, c'est ça, de l'armée.
C'est de l'armée qui est faite pour je ne sais plus quoi. Et effectivement, c'est pour faire mieux marcher les jouets, justement. Ils décident de leur intégrer un peu une petite intelligence artificielle.
Il y a un épisode des Simpsons comme ça, où la marionnette de Krusty a le même type de comportement. Et ils font la même chose avec des jouets animés style des Furby ou ce style là ils mettent des puces dedans pour que les Furby deviennent incontrôlables et font presque à conquérir le monde, quoi.
Mais en tout cas on voit finalement qu'il y a, avant l'extrait sur Toy Story, il y a quelque chose d'important, c'est que encore une fois quand on fait la nostalgie des années 80 et qu'on touche ces acteurs, ces réalisateurs mythiques dans notre podcast avec nos thèmes plus ou moins excentriques, on est très heureux de parler de Joe Dante parce que il est symbolique de cette génération de cinéastes qui racontent leur enfance. Et qui réutilisent en fait leur boulot pour retrouver des sentiments très enfantins. Alors Joe Dante, c'est évidemment incontournable de ça, puisque de Small Soldier à Gremlins, en passant par le flop Explorers, qui était à lui exceptionnel aussi, on voit qu'il y a le fantasme des enfants qui est remis à l'écran, et le jouet il raconte en grande partie ça avant tout. Et comme tu disais Thomas, c'est vrai qu'il y a un défi de taille, c'est d'arriver à conquérir les adultes dans cette histoire, les adultes qui eux n'oublient pas leur enfance évidemment, mais veulent la redécouvrir autrement. C'est à ce titre là que je fais la transition, parce qu'il y en a pour le coup qui écrase Small Soldiers avec les chiffres. Évidemment c'est pas la même catégorie de film, mais il y a une démarche qui est assez similaire, c'est Toy Story. Je vous propose d'écouter justement un extrait de la bande annonce et puis on se retrouve dans 20 secondes justement pour revenir sur ce sujet là.
Pour tous ceux qui se sont déjà demandé ce que peuvent bien faire les jouets quand personne ne les regarde,
que la fête commence!
Walt Disney Pictures vous invite dans un monde où les jouets prendront vie.
Waouh, c'est cool! Allez, tout le monde dans ma chambre!
Alerte rouge! Andy remonte dans sa chambre! Ah, Andy arrive! Tout le monde à sa place et que ça saute!
J'ai perdu une oreille!
Je suis en devant!
Vite! J'ai besoin de place pour faire atterrir le vaisseau spatial!
Woody, le vétéran.
Tu me cherches des crosses? Oh, canon, ton dessin!
Buzz, le nouveau.
Il va te prendre ta place!
Personne ne perdra sa place!
Excusez-moi.
Buzz Lightyear, à la rescousse!
Oh, on veut jouer les durs à cuire!
Alors, on se moque de moi.
Alors, Toy Story, film de John Lasseter. Là, c'est vrai qu'on va quand même un petit peu changer de braquet, parce qu'il y a un film qui a une influence et une atmosphère est très numérisée, parce qu'on rentre vraiment dans le cinéma avec cette écurie qui va être à 400, quasiment Pixar, qui va être à quasiment 400 millions de dollars là en termes de box-office. Donc, on voit tout de suite l'ampleur par rapport à Small Soldiers qu'on citait tout à l'heure. Donc, Toy Story, c'est devenu une série de films, une franchise à part entière. Mais le premier film, il a évidemment eu ce côté très surprenant, hein. On est en 1995 et on voit que finalement c'est avant Small Soldiers, on pourrait alors plus dire que dans un sens c'était après. En 95, donc on est dans cette logique avec Pixar qui coproduit déjà à l'époque avec Disney, où on met en scène évidemment ce groupe de jouets. Alors je vous rappelle les personnages importants, parce que certains ont déjà eu leur franchise à part entière, comme Buzz l'éclair apparemment, qui est une figure d'astronaute avec cette voix très héroïque, très portée, le héros des années 50, la Flash Gordon, et Woody, la poupée qui représente un cow-boy. Donc ce sont les jouets d'un jeune garçon qui va déménager. Donc on sait que très longtemps, ça aussi ça pourrait être un thème à part entière dans l'émission, les déménagements. C'est incroyablement traumatisant pour les enfants parce qu'ils perdent tous leurs repères, ils doivent refaire leur territoire. Donc forcément on doit avoir cette logique là. Thomas Ronchon, il n'a pas assez déménagé.
Bah si, justement.
Mais alors, Toy Story, moi, je suis
toujours là.
Je me rappelle quand on l'avait vu en salle, Toy Story, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il y avait un véritable effet de surprise de se dire, mais c'est un petit peu dingue quand même de faire des choses comme ça. Certes, c'était par le truchement du cinéma d'animation qui a toujours été une facilité évidemment pour les réals de lever les limites techniques que n'avait pas Joe Dante par exemple avec Small Soldiers. Mais assez rapidement, le succès est phénoménal. On le voit qu'il y a un vrai besoin en fait de récupérer des jouets animés. C'est aussi une période 95 qui est pas forcément anxiogène, dans laquelle on avait un enchantement qu'on retrouve pas forcément dans certains films d'animation aujourd'hui. Alors, après, ça c'est un commentaire très personnel, mais je vous lance là-dessus sur Toy Story. Je sais pas qui veut commencer.
Bah, en plus, ce qui est bien avec Toy Story, c'est qu'il y en a eu plusieurs depuis. Et il y a eu toute l'évolution en fait des jouets et de la technique. En fait, on peut le voir au fur et à mesure des films, donc c'est assez intéressant. Et c'est intéressant, donc, dans le premier Toy Story, c'est des jouets. Il y a quelques jouets connus qu'on avait déjà chez nous, mais les personnages principaux, c'est pas des jouets. Voilà, ils ont pas pris un jouet que tout le monde connaissait. Et ils en ont fait des jouets cultes, parce que moi, mes enfants, ils ont eu Buzz l'éclair, ils ont eu Woody, quoi. Mmh. Mais par exemple, j'ai une petite tendresse pour le Toy Story 3, où ils se retrouvent dans la garderie, parce que déjà, je trouve que l'histoire est sympa.
En 2010. Et
j'aime beaucoup la Barbie et le Ken, qui est avec les gros durs et qu'on traite de jouets de filles, quoi. Enfin, il y a plein de petites choses. Comme beaucoup de Pixar, ça parle à la fois aux enfants et aux adultes. Et en plus, dans cette fameuse garderie, moi, je vois des jouets que j'avais quand moi, j'étais petite, qui n'existent plus aujourd'hui. Le téléphone, là, qui se fait casser, d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et voilà, mais le premier Toy Story, je pense que c'est surtout l'aspect technique qui est très, très intéressant.
Ouais, puis il y a une vraie audace, hein. Depuis, bon, on l'a dit, Toy Story, comme tu l'as rappelé, bon, c'est 1, 2, 3, 4, des courts-métrages, une série dérivée, Buzz l'éclair, le film, le début des aventures, les aventures de Buzz l'éclair en 2000. Bon, c'est devenu vraiment, évidemment, ça s'est un peu peut-être délité avec le temps, c'est un peu le destin des séries et des suites, mais c'est vrai que dès le premier, il y a cette volonté-là, et puis dès le Toy Story 2, il y a évidemment, ce qui est devenu une figure incontournable de la pop culture et des films postmodernes, c'est de citer d'autres films. Et ça, c'est ce qui m'a assez marré, il y avait une réplique où il refaisait la scène de Star Wars, « Je suis ton père », qui nous avait absolument scotché, parce qu'on voit les effets venir 50 km à l'avance, c'est justement une notion de postmodernisme, donc du cinéma qui réutilise le cinéma. Mais également, ce qui m'avait marqué avec Toy Story, c'est du cinéma qui réutilise les autres arts, et notamment les jeux vidéo. Il y a cette scène absolument tordante, mais lourde de sens, où vous avez le T-Rex avec ses petits bras qui n'arrive pas à jouer à la Super Nintendo. Et donc, il ne peut pas sauter à Mario quand il joue au jeu de plateforme. Et je trouvais que cette scène-là, moi, elle m'avait scotché. Elle est très, très, très lourde de sens. Et puis, surtout, l'audace du film, également dans son discours, et pas seulement dans son audace technique.
Alors, je suis pas le bon public pour ça, en fait. J'ai bien aimé Toy Story, je crois que je n'ai vu qu'un d'ailleurs, le premier, mais je suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que j'ai pas été vraiment séduit par le message. Je comprends tout à fait qu'on l'ait, hein, ça, encore une fois, ça parle à tout le monde, parce qu'on a tous des jouets et des souvenirs attachés à ça, mais j'ai pas trop d'opinion. Après, je rejoins un peu évidemment ce que disait Juliette sur le côté des jouets de souvenirs. Moi, je me rappelle, voilà, le saut des petits soldats en plastique, je l'avais aussi quand j'étais petit. Mais alors c'est peut-être mon côté cynique, hein, mais ce que tu dis, la franchise, tout ce qu'il y avait, mais t'as oublié de citer les attractions au parc Disney, t'as oublié de citer tous les jouets pour le coup.
Ah bah Disney qu'on produit,
là,
hein,
c'est la fiction.
Ouais, complètement.
Qui la fiction, la réalité qui se tourne autour, parce que oui. Du coup on trouve les jouets en magasin, donc on pourrait très bien imaginer des films à nouveau sur ces nouveaux jouets qui ont été faits sur ce film qui était fait à la base sur des jouets. Enfin bref, c'est ce petit côté un peu un peu cyclique, je trouve.
Oui, complètement, ouais.
Mais
C'est pour ça que c'est bien qu'on puisse en parler en parallèle avec Small Soldiers, qui a ce vrai discours critique, toujours en filigrane chez
Joe Dante. Peut-être que si Small Spider avait rencontré un succès énorme, peut-être qu'on aurait eu droit aux jouets dans mon magasin. Ça se trouve, c'était
prévu dans les tiroirs. On l'a dit un petit peu, mais ça n'a pas marché. En fait, enfin, je pense que c'était prévu, mais ça n'a pas marché. Après, pour en revenir justement à l'aspect mercantile, donc il n'y a pas longtemps, il y a eu Buzz l'éclair qui est sorti.
Oui.
Il est donc censé être le film qui a inspiré le jouet Buzz l'éclair. Et donc moi, je suis allée voir avec les enfants et... en fait, on n'a pas trouvé que le film donnait envie qu'il y ait un jouet qui soit tiré du film.
C'est
dommage parce que c'était le but du truc, quoi. Donc voilà. Il n'a pas sa réplique parce qu'on a dû mettre une nouvelle réplique parce qu'on a fait un nouveau film. Mais bon, Buzz l'éclair, nous, c'est vers l'infini, au-delà, comme un fou. Et là, c'était un petit geste en plus, mais voilà. Ça... En fait, ils ont presque cassé leur qu'ils avaient mis en place.
C'est vrai que c'est typiquement ce que fait Disney en ce moment, puis on en reparlera avec les adaptations sur les jeux de plateau au programme de cette thématique des jouets au cinéma, parce qu'il y a vraiment une logique de franchise ici qui essore son objet, son jouet on pourrait dire, et qui va jusqu'au bout, et comme disait Nicolas, ouais, on est vraiment allé jusque très très loin. Alors avant d'arriver au gros jouet, hein, du gros bonhomme qui casse tout dans la deuxième partie, on va quand même finir avec Toy Story, parce que c'est vrai que Thomas, on t'a pas consulté sur Toy Story, mais je crois de mémoire qu'on l'avait vu ensemble à peu près, le 2 je crois, dans les années 90, et c'est vrai qu'il y avait cette vraie effet de surprise, au moins dans les deux premiers, c'est vrai, on restait dans un enchantement en fait à la Disney, et évidemment au premier regard on loupe un peu ce côté très merchandising qui est un petit peu plombant en effet.
Moi Toy Story le premier j'ai vu qu'une seule fois, après le 2 comme je pense pas mal de pas mal de gens autour de moi, on a vu d'abord le 2. Et on s'est dit, mais ouais, le second degré, le recul, les références qu'on ne mettait pas à l'époque, qu'on ne mettait pas vraiment beaucoup dans le cinéma, maintenant ça devient un gag. S'il n'y a pas de référence à une réplique ou une situation de Star Wars, t'as loupé ton film de pop culture, hein, c'est sûr. Ah. Donc du coup, maintenant, Toy Story avec le recul, ça fait comme... alors là, c'est la comparaison complètement de grand écart. C'est pour ceux qui ont écouté les émissions précédentes aussi, quand Milan parlait de Citizen Kane, où il disait Citizen Kane, on nous fait tout un foin, c'est le film incroyable du monde, mais maintenant il y a 70 ans d'histoire, 80 ans d'histoire de films, ces situations là je les ai vues ailleurs. Effectivement, mais Citizen Kane c'était premier, et là pareil, toute la production de Pixar, finalement, elle se fait sur le même canevas. C'est-à-dire qu'un côté enfance et un côté, les adultes pourront comprendre un incroyable second degré, une incroyable histoire de famille.
Et un déménagement. Il y a toujours des déménagements.
Il y a toujours, toujours une petite rupture, un déménagement.
Si les Ricains déménageaient pas, on aurait beaucoup moins de films.
Une crise. Et là, quand tu parles de Buzz l'éclair, le dernier film sorti au mois de juin l'année dernière, mais il est terriblement premier degré, ce film, en fait. Là, t'as l'idée d'avoir un héros. Ça aurait pu marcher, hein, mais c'est juste un actionneur de plus, quoi. Je pense que c'était une mauvaise idée dès le départ, en fait. Trop tard, on va pas arrêter la production d'un film comme ça. D'ailleurs, ils l'ont sorti un peu en catimini. Je crois qu'il est sorti en partie sur Disney+, directement aux États-Unis, je crois. En même temps que la sortie salle. Donc, du coup, ça n'avait... Quand tu commences à le sortir sur ta plateforme, c'est que t'as pas confiance du tout dans ton...
Oui, puis t'as le début du film où t'es obligé de mettre un bandeau pour expliquer que c'est le film qui a inspiré le jouet. Je crois que ça, déjà, dès le premier bandeau noir où c'est écrit ça, c'est un petit souci
scénaristique. On va faire la pause musicale juste après, et puis nous, on se retrouve dans la deuxième partie. On va parler de jouets qui cassent tout, et pas seulement les salons, également les placards, notamment, et beaucoup de choses dans la maison et dans le monde également. On se retrouve donc dans cette deuxième partie pour parler de Lego, de Transformers et de plein d'autres trucs, évidemment.
Je me sens comme une gosse qui pleure, je fais moins la maline. Où est passée la magie, la folie des débuts qui animent. Aujourd'hui les idées sombres, derrière mon sourire. J'ai le regard vide. On m'avait pourtant dit ça ne sera pas si facile. Femme rebelle et fière, je vous jure j'ai rien vu venir. Le cœur à mille à l'heure, pression sous ma poitrine. J'ai des envies d'ailleurs, immobile je pars en vrille. Je danse, danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Je danse, danse dans ma tête. Je danse contre moi-même. Seul il est tard dans le noir, je m'égare. Tomber l'armure, détruit tous les remparts de cette femme qui se bat, cet artiste qui rature, qui se raconte des histoires pour cacher ses blessures. Je me regarde droit dans les yeux, je me sens nulle. Je vois bien que je n'y arrive pas et que les années me consument à courir après le succès. Je repars droit dans mes travers, mes boulimies, mes douleurs. Je dors.
C'était Ivani avec Contre moi-même qui nous accompagne pour toutes nos pauses musicales du mois de février.
Thank you.
Willis qui savait encore son texte, non?
Eh non, c'est pas ça l'anecdote sur G.I. Joe, et c'est comme ça qu'on commence notre deuxième partie. Merci Thomas. Non, alors, G.I. Joe, les bandes annonces.
C'est énorme avec Bruce Willis.
Ah ouais, complètement. Non, en fait, on a entendu.
Mais j'en avais parlé quand on avait fait l'émission sur Bruce Willis, justement, où il y a une grosse fusillade et elle lui demande ça va? J'ai juste un peu de cholestérol, quoi. Je trouve ça.
C'est une réplique, on va dire que c'est une réplique très bien écrite. Et notamment ici, les jouets qui nous amènent vers une catégorie de films relativement nanardisante. Mais pourtant, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on va le dire, parce que G.I. Joe, par exemple, avec lequel on va commencer cette seconde partie, est une franchise qui a tellement été épuisante pour ses comédiens que même son acteur principal, Channing Tatum, a exigé dans le deuxième de mourir au bout de 10 minutes parce qu'il n'en pouvait plus d'être là-dedans. C'est vous dire à quel point on est tombé dans un nanar qui est assez dingue, parce que même les pires films du monde qu'on a vus aux Nuits Nanarland et sur Orléans avec l'assaut Nanani Nananar ne sont jamais allés aussi loin dans l'épuisement mental, y compris de ses propres comédiens. Donc pourquoi on en est arrivé là? Parce que c'est vrai que G.I. Joe, bon, on va le préciser, ça commence avec donc des films, le dernier en date c'est G.I. Joe Conspiration, réalisé par le mythique John Chu, qui n'a pas réalisé La Soupe.
Et il a fait John Chu, quoi.
Il n'a pas réalisé La Soupe au Chou, notamment, évidemment, le remake américain que tout le monde voudrait découvrir, évidemment. Mais alors G.I. Joe, c'est vraiment cette suite de films. Alors il y en a eu deux, hein. ils ont fonctionné à deux, puisque le premier était G.I. Joe, le réveil du cobra. Cette fois-ci, donc, on était en 2009, un film de Stephen Sommers, et notamment...
La Momie.
Stephen Sommers, La Momie, le mec qui a créé La Momie, voilà. Il a fait ça, et après il a essayé d'autres trucs, et ça s'est cassé la binette. Et c'est vrai que là, on est dans une compréhension qu'on va partager avec Transformers, parce que Nicolas, dans la première partie, tu nous en parlais, évidemment, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des jouets qu'on retrouve, mais la première question avec les films qu'on va évoquer dans cette ici, c'est pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez essayé de faire de manière artistique Joe Dante, en ayant ce discours critique et ce discours enfantin à la fois? Il avait ce talent pour le faire, il l'a toujours. Ici, on est dans une pure logique mercantile qui, malheureusement, est passée à côté d'un sujet, du sujet et du film.
Alors après je suis pas certain que les jouets G.I. Joe à l'origine aient un autre message autre que les gentils contre les méchants, hein. Oui. Historiquement G.I. Joe d'abord c'est pas du tout les jouets auxquels on pense qui ont inspiré le film, c'est des mannequins de la même échelle que Barbie et qui date je crois des années 50 si je dis pas de bêtises. Après il y a eu la transposition dans les années 80 à l'échelle 10 cm à peu près je crois des personnages. C'était très manichéen, hein, c'était comme Cobra contre les Gilles, même si on sait que G.I. Joe ça se voulait un peu multi comment dirais-je, culturel, enfin il y avait les personnages avaient plusieurs nationalités différentes, il y avait des personnages chinois, il y avait un français, etc. Mais on savait bien que c'était quand même les Américains au global, que tous ces gens-là rejoignaient un commando américain. Cobra, lui, n'avait pas de nationalité, c'était quelque chose de terroriste, et on se posait pas la question, et c'était prétexte à vendre des jouets, des figurines et des véhicules. Après, le film, pour moi, il est très fidèle, hein, parce que pareil, enfin c'est pas compliqué l'histoire, hein, c'est les gentils contre les méchants qui se tapent dessus, enfin il y a rien de c'est prétexte à rappeler tous les souvenirs. Ah bah oui, celui-là je me rappelle, je l'avais à l'écran, ce véhicule je le reconnais, ce personnage, c'est ni plus ni moins que de la nostalgie pour faire des sous, pour après soit mettre sur le marché des un peu comme les maîtres de l'univers d'ailleurs, on trouve maintenant en magasin des jouets pseudo vintage qui ont un look un petit peu années 80 mais en même temps sont un peu plus modernes avec un peu plus d'articulation. Donc ça a permis à la fois ça a permis à des gens comme moi qui avaient encore des jouets très bien conservés des années 80 de surfer sur la spéculation et pouvoir les offrir sur eBay à des prix indécents. Donc voilà,
c'est fantastique.
Et à devenir milliardaire, c'est presque.
Un peu comme millionnaire.
Mais je crois que c'est dans 40 ans. Et c'est dans 40 ans toujours plus haut. Dans 40 ans toujours plus haut, Steve Carey, il a une collection de jouets sous blister. Et il la revend en entier pour se mettre en couple. Et il est absolument dégoûté. Donc c'est vrai qu'on peut aussi citer ce passage-là, parce que c'est une scène qui est très très drôle. Oui, il refuse de lâcher ses jouets. Mais il y a ce discours-là, en fait. C'est ça qui est, quand on entend parler de G.I. Joe, de Transformers, c'est se dire que comment ils ont pu louper ça, l'adulte qui doit vendre ses jouets, en fait. C'est quand même pour moi une des bases, un des piliers sur lequel doivent reposer ces films-là, même si évidemment ils doivent se prendre un minimum au sérieux, parce que les jouets l'étaient. Je pense que il y a quelque chose, voilà, un discours un peu méta qui quand même devait être présent. Et c'est vrai que en reprenant le discours très pompier très primaire qu'on projette quand on est enfant, on reproduit les films réganiens des années 90 aux États-Unis, et forcément dans un contexte où on en avait plus besoin, donc les gens s'en moquaient un peu en fait à cette époque-là. On est vraiment dans des années 2010-2013, en plus il y a eu des guerres au Moyen-Orient, il y a eu des guerres en Irak, on en avait un peu ras-le-bol, et puis on était avant évidemment les vagues terroristes, donc malheureusement on est tombé à côté du sujet. Juste pour l'anecdote, en plus, il y a une image de G.I. Joe, le premier, hein, le réveil du cobra, puisque c'est Paris qui est attaqué dans le film, comme dans la série animée. Les terroristes désintègrent la tour Eiffel, ce qui est relativement agressif et pas hyper cool pour le patrimoine français. Et cette image de propagande, alors là, on n'est plus dans la blague, a été utilisée dans des clips de Daesh, hein, de revendication des attentats en France. Justement, on voit... Alors pourquoi je cite ça? Parce que ces films se prennent tellement au sérieux qu'ils en deviennent eux-mêmes une propagande, alors qu'on est dans une bulle enfantine qui méritait en tout cas d'être mise en perspective. Thomas, pardon.
Bah, tu dis que les films sont ratés, enfin dans le sens oui, enfin de façon critique, on peut pas trop les sauver, mais l'objectif est atteint à chaque fois. Moins sur G.I. Joe évidemment parce que ça fait pas déplacer non plus des milliards de personnes, mais Transformers, il y en a un autre qui sort là hein, cette année. Ça fait le sixième. Hein.
Aussi,
ouais, ça fait le sixième.
Ça, c'est assez terrifiant.
Ça fait six. Hein. Nous, c'est un défi à Crobaric, on va tous les voir au cinéma.
Ah oui.
C'est un vrai défi.
J'ai perdu deux compagnes à cause de ça. J'ai fait trois dépressions.
C'est ça. J'ai déjà raconté une fois, mais il y a des fois, je suis obligé de lui mettre des coups de coude parce qu'il dort.
Ah oui.
Les films durent 3 heures. Et il me dit mais c'est pas possible, on était dans la forêt avec, on était dans une ville, maintenant on est dans la forêt avec des dinosaures.
Moi je me rappelle encore.
Ouais. Non, en fait, ouais, t'as dormi pendant une heure.
Ça va tellement loin dans l'outrance que mon cerveau d'adulte normalement constitué refuse de voir ces scènes-là et se met en veille. Et moi je me rappelle une scène où il y avait John Tortoreau que j'adore, qui est devant un monstre avec une espèce de grue qui a des testicules quoi. Enfin, je veux dire, des testicules à base de boules de destruction. Et là, je pense que j'ai un cerveau qui s'est mis non. Stop. Je te mets en veille et c'est vrai que je me suis littéralement endormi. Mais ça, c'est assez marquant sur le côté vraiment assommant de ces films-là quand ils n'arrivent pas à prendre ce recul. Alors, évidemment, je pense que les réalisateurs en ont quand ils nous montrent des scènes comme ça, mais on arrive à un degré vraiment de potage.
Non, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est principalement Transformers, c'est Michael Bay. Qui n'est pas l'homme le plus fin du monde. Voilà, on va le dire comme ça. Ouais. Voilà, c'est pas l'homme dont on se dit que sa finesse de réflexion, sa finesse de cadrage, sa finesse de mise en scène va nous apporter quelque chose. Quoi. Comme par exemple, quand on se dit, mais finalement, on nous vend des robots qui se transforment, sauf qu'à l'écran, on ne le voit quasiment jamais. Ils sont soit hors champ, on entend des bruits de transformation, hop, on se retrouve après, on finit une petite transformation, le robot est transformé, hop, il parle, soit c'est une voiture. Et donc du coup, il y a pour moi, quand on les avait vus, je me sentais floué, quoi. Moi, j'avais envie de voir un robot pendant peut-être 15-20 secondes, une scène assez longue, où on voit toutes les articulations se mettre en place, un peu comme Rambo quand il se prépare dans Rambo 3, il lâche ses chaussures, il met son couteau, on sent que ça y est, ça va
barrer. Ou les chevaliers du Zodiac quand ils mettent leur armure. Voilà,
c'est ça, il y avait cette idée que presque si tu faisais, c'était toi qui le faisais à l'écran. Ouais.
Mais la vraie origine de Transformers, c'est cette pub Citroën qu'on a tous oubliée. Je crois que c'était une C4 oui. En fait, qui a tourné le monde entier. Vous aviez une C4 qui dansait comme ça, le Smurf, et qui se retransformait, et boum, le robot c'était une C4. Et là, tout le monde était fier.
J'étais très fier parce que j'ai eu une C4. J'étais très fier parce que j'ai eu une C4.
The new Citroen C4.
Et je m'étais dit, ça y est, j'ai un transformeur.
tu cherchais le bouton dans la voiture qui permettait de la transformer.
Ouais, alors, vu la tronche des transformations, il y a moyen que ça fasse du HI, hein, mais bon. Mais c'est vrai que cette pub-là, elle était absolument dingue. Et sur 20 secondes, on se disait... Oh, et derrière, je me rappelle, mais très bien, moi, enfin, franchement, le timing était dingue parce que un an et demi, grand max derrière, vous aviez boum, Transformers qui arrivait, on se dit, mais il y a même pas de C4 dedans, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, pour finir sur G.I. Joe, moi, ce qui en dit donc, c'est les récompenses qu'a reçu ce film, Le Réveil du Cobra, le premier, parce qu'il en a eu des récompenses, ça, quand même. Il en a eu 3, 19 fois nommé 3 récompenses. Prix du jeune public en 2010, donc visiblement il devait être pas bien. Meilleur acteur dans un film décerné à Channing Tatum. Donc déjà dans un film, Channing Tatum. Jeune, voilà. Bon, Channing Tatum, il est bien dans plein d'endroits, sauf les plateaux de tournage. Prix Razzie 2010 du meilleur second rôle féminin, Sienna Miller. On rappelle que les Razzie, c'est les Gérard à la française, c'est pour les pires comédiens. Et il y en a un qui m'a marqué, parce qu'évidemment celui-là, il faut en parler. Société américaine des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique, prix des meilleurs films au box-office pour la bande-son d'Alan Silvestri, pour justement ces G.I. Joe. On se dit, c'est incroyable, quoi. Et là, vous avez un éclectisme total dans des enfants à qui on propose des choses visiblement sur lesquelles ils n'ont pas de recul. Sienna Miller, donc bon bah qui est là, qui fait ce qu'elle peut avec ce qu'on lui donne, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis c'est box office qui ce marqueur en tout cas qui montre en tout cas que c'est des immenses succès. Mais c'est vrai que sur le long, on est là en train d'en rigoler et on se dit vraiment qu'il y a quelque chose d'assez nanardeux maintenant dans ces productions qui peut-être dans 10 ans feront le bonheur des nuits nanarlandes. À quel point que moi je vous pose à ce stade de l'émission une question assez basique. Est-ce que alors là, on adapte des jouets en film live. Mais est-ce que vous pensez que des jouets peuvent être adaptés dans des films live au sens le plus large du terme? Est-ce que pour vous, il n'y a pas un frein, une limite absolue à l'imaginaire? Alors, Small Soldier essayait de jouer avec ces limites-là. Si c'était vraiment sur cette frontière-là, il animait avec des effets spéciaux des jouets dans un film live. Mais est-ce que c'est encore jouable, pour le coup, dans un monde réel, de remettre en avant des jouets, aujourd'hui, à vos yeux. Vous avez 4 heures.
C'est peut-être un peu compliqué, parce que c'est forcément... Enfin, les jouets, du coup, c'est un domaine quand même enfantin. Donc, souvent, ça mettra en scène une histoire avec des enfants et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de films comme ça. Je sais pas. On parle aujourd'hui avec des enfants... Mais vas-y, je t'écoute.
Non, vas-y, termine.
Sinon, ça voudrait dire que ça serait un truc totalement déjanté avec, comme tu disais, des jouets en blister qui se rebellent contre le gars qui veut les vendre, par exemple, ou un truc comme ça, quoi. Mais...
Moi, je vous invite à aller sur YouTube, vous allez voir qu'il y a des milliers de vidéos de gens qui filment leur personnage Lego, leur personnage Playmobil.
Oui, ça, c'est génial.
Dans une histoire. Et c'est quelque part, c'est du Toy Story artisanal, j'ai envie de dire. Alors certes, on voit pas les humains derrière, mais agir avec un smartphone et puis quelques briques de Lego, il y en a, ils font des histoires.
En stop motion. C'est lancé par Michel Gondry avec Rembobiner, s'il vous plaît là.
Ouais, Be Kind Rewind.
Be Kind Rewind avec les films suédois, et c'est vrai qu'il avait invité les gens à faire des films suédois. Il y avait beaucoup effectivement de courts métrages avec des Playmobil, des trucs comme ça. Quoi.
D'ailleurs, Michel Gondry avait eu l'humour de faire la première internationale de Be Kind Rewind en Suède. Parce que ce sont des films suédois, et je vous assure que c'est pas une blague. Oui.
Mais ça rejoint ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on était gamin, on prenait nos deux jouets chacun dans la main, comme ça, et puis on se racontait une histoire, un dialogue, et puis voilà, sauf qu'on n'avait pas de caméra, on n'avait rien pour filmer. Mais maintenant, on peut le faire, en fait.
Enfin, moi, personnellement, à l'école, j'étudiais. Après, je sais pas quelle enfance vous avez eue. Mais... Voilà, je peux passer ma vie à jouer.
Transformers, c'est ni plus ni moins que Michael Bay qui s'amuse avec ses jouets, en fait.
Exactement.
Sauf qu'il a un budget plus conséquent que nous. Il a plus de jouets. Il a des jouets que nous, on pouvait pas avoir parce qu'ils étaient trop chers. Lui, il les a, et puis en plus, il les casse, quoi. Donc, c'est...
Il aime bien les casser.
Les jouets qui cassent tout. Alors, on va en parler d'autres, hein, de jouets qui cassent tout, parce qu'il y a des franchises. On va écouter également un autre extrait qui sont devenus incontournables, puisque là, on a des vrais objets merchandising qui sont devenus des films pour les vendre. Mais juste avant les bandes annonces, je voulais citer quand même des dessins animés de notre enfance qui étaient censés vendre des jouets. Et les jouets n'ont pas marché alors que les dessins animés ont fonctionné. Alors, et vice versa, puisqu'on peut citer l'exemple de Jace et les Conquérants de la Lumière. qui était vraiment un dessin animé qui a été créé pour vendre des jouets, mais personne n'a acheté les jouets, donc ça s'est arrêté. Et puis on peut citer également dans le domaine des dessins animés, tels qu'on les appelait, mais ça reste de l'animation, le cas de Mask, évidemment.
Mask, c'est dans les tuyaux. Hein. Mask, il y a des rumeurs qui disent, comme c'était Hasbro aussi, il était même question, je crois, dans un Transformers pour qu'il y ait un caméo du personnage de Matt Tracker, qui est le chef des masques. Et de la même façon que dans le même genre, il y avait aussi, comment s'appelaient les nanas qui chantaient là, James et les hologrammes.
Ah, mais les hologrammes.
Ouais, et ça a été adapté au cinéma.
C'est le rêve.
Okay. Au cinéma, et ils avaient prévu de faire un univers partagé, ça avait été évoqué, je sais pas où s'en est ce projet, mais ça a été évoqué de faire un univers partagé et donc d'introduire les personnages de Mask aussi dans ce...
Une sorte de Toyverse, Toyverse quoi en fait, en quelque sorte.
Voilà, voilà.
Mais c'est vrai que Mask, bon bah il est marqué, on peut avoir quelques mots là-dessus, mais moi c'est un dessin animé qui nous a tous marqué dans le monde entier, parce que là, le dessin animé a été devenu culte, et en plus les jouets se sont vendus, ont été excessivement cultes. On peut renvoyer d'ailleurs Mathieu qui nous écoute souvent, qui est un de nos auditeurs les plus fidèle, adore une chaîne qu'on cite souvent dans l'émission, qui est Archeo Toys, une chaîne YouTube dans laquelle vous retrouvez énormément de ses références sur les jouets. Évidemment, on est obligé d'en parler, de vous la citer en référence. Mais c'est vrai que Mask, c'est une logique de serial, et puis c'est surtout ces scènes d'intro, quoi. On appelle des mecs complètement improbables dans des situations où ils doivent parfois poser leur bébé sur le trottoir dans la rue pour aller accomplir leur mission, parce que la montre qui les appelle, elle trouve toujours le chic pour les appeler quand ils ont quelque chose d'autre à faire.
Pour cette mission, il me faut les meilleurs agents.
C'est une mission pour nous, T-Bob.
Personnel sélectionné. Brad Turner, pilote de moto et d'hélicoptère. Nom de code, Condor. Bruce Sato, ingénieur spécialiste en mécanique. Nom de code, Rhino. Alex Hector, expert en informatique et communication. Responsable du réseau Rhino. Ando McLean, spécialiste en armement, stratégie de combat, nom de code, Firecracker. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage, nom de code, Gator. Buddy Hawks, expert en métamorphose, renseignements généraux, copilote de Firecracker.
Il faut réunir le masque.
Et ils sont jamais dans le canapé, quoi.
Voilà, ils sont jamais ou aux toilettes. Moi, j'ai toujours rêvé qu'il y a un mec aux toilettes. Vous êtes convoqué à la mission. Et ça, c'était absolument génial. Ces scènes d'intro, même parfois, je retombe dessus sur des chaînes du câble. Mais je me dis, ça, c'était vraiment du génie pur. Ces scènes d'introduction où on allait chercher une équipe d'espions pour taper des méchants. La plupart du temps, en plus, cette équipe ne servait à rien parce que c'était Mass Striker qui démontait tout le monde tout seul. Mais c'était sympa. Tiens, lui, je l'ai pas vu depuis longtemps. Je vais l'inviter dans ma mission, comme ça on va discuter un peu. J'ai pas du tout besoin de sa moto magique, mais c'est pas grave, au moins on tapera un peu.
Et il y avait le syndrome de la Schtroumpfette, puisqu'il y avait Gloria Baker, le seul personnage féminin de l'équipe. Il y avait aussi Vanessa, je sais plus comment, chez Venom, aussi, qui était l'équivalent, parce qu'il fallait quand même attirer un petit peu de public féminin, même s'il faut bien reconnaître que c'était des jouets quand même beaucoup orientés garçons, même si les jouets ne sont pas genrés, en tout cas moi c'est ce que je pense, mais force est de reconnaître qu'à l'époque, malheureusement, c'était quand même bien, bien cloisonné tout ça.
Exactement. Thomas, sur Mask, avant de passer dans nos...
je pense que moi, mon film préféré sur Mask, c'est La Nuit des Masques. Voilà. Simplement.
Alors, on peut la sortir à l'info. Là, je suis tombé pendant qu'on parle de l'émission avec la réflexion de Nicolas. C'est vrai que je m'y suis. En 2018, il y avait des articles qui citaient que licences Hasbro au cinéma sont très particulièrement rentables au box-office. Évidemment, Transformers, on en a parlé. Mais c'est vrai que pour le coup, Mask, alors c'était en 2018, devrait voir prochainement le jour au cinéma. Bon, a priori, on est en 2023, on n'en a pas encore vu la couleur. Mais. On sait que c'est dans les tuyaux et forcément ils y ont réfléchi. En tout cas, on va directement en parler.
Le masque aura besoin de nous pour affronter Venom.
Oh.
Et c'est la fin de ce premier numéro de Graffiti Cinéma du mois de février consacré aux jouets au cinéma et dans le cinéma. Vous retrouvez toute l'équipe la semaine prochaine pour le deuxième numéro de ce thème. Au programme, on continuera à parler évidemment des jouets du cinéma. On parlera également avec des gérants de boutiques de jouets pour les adaptations de licences de franchises de films sur les jeux de plateau. Et on en parlera également avec des techniciens. Quels sont les jouets techniques les plus fous de l'histoire du cinéma? Voilà tout le thème du mois de février et son premier numéro. On vous retrouve, nous, dès la semaine prochaine dans Graffiti Cinéma chez tous nos diffuseurs. A bientôt, jouez, restez des enfants et allez en salle. Salut à tous!
À 50 millions de dollars pour un fragment du météore qui tue.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?
Hein?